Bonjour. Alors, pour commencer, un chiffre qui interpelle. Depuis 2015, le nombre de publications scientifiques sur l'intelligence artificielle, il double tous les 3 ans.
Ah oui, c'est énorme.
Ça donne une idée, de l'effervescence. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu les stratégies nationales en IA, cette compétition mondiale. On s'appuie pour ça sur des rapports récents, notamment de la Cour des comptes et de l'IFRI.
Oui, des sources très intéressantes.
L'objectif, c'est de voir comment les différents pays abordent ce défi technologique majeur, quelles sont les grandes tendances, et puis aussi cette course effrénée et les risques qui émergent, quoi.
Absolument. Et si on commence par la recherche mondiale, c'est assez frappant.
Oui.
Mais sur la période 2000-2019, la Chine est passée devant tout le monde, en volume de publications scientifiques sur l'IA, je veux dire. Elle dépasse l'Union européenne et les États-Unis.
Ah oui, carrément.
Oui, on parle de plus de 22% du total mondial pour la Chine en 2019. C'est considérable.
Impressionnant.
Mais attention, le volume, ça ne dit pas tout. Si on regarde l'impact réel de ces recherches, mesuré par les citations.
Ah, la qualité en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Ben là, les États-Unis gardent une avance, et même une avance très nette. Leur score est quasiment le double de celui de la Chine, sur la dernière décennie étudiée.
D'accord. Et l'Europe, elle se situe où?
L'Europe est entre les deux. Bon. Et pendant ce temps, faut voir que le nombre total de publications a littéralement explosé, hein. On est passé de peut-être 10 000 par an en 2000 à plus de 120 000 en 2019. C'est une vraie déferlante.
Une vague, oui. C'est fou ce décalage entre quantité et impact. Alors, comment cette course à la recherche se traduit dans les stratégies concrètes des États? La Cour des comptes a regardé 10 pays, il y a des points communs qui ressortent.
Oui, tout à fait. On voit émerger une sorte de panoplie d'actions assez similaires un peu partout.
Comme quoi, par exemple?
D'abord, concentrer les forces, c'est-à-dire créer ou, disons, muscler des centres de recherche vraiment dédiés à l'IA. On pense aux instituts de la NSF aux États-Unis ou ceux du CIFAR au Canada, l'Alan Turing Institute au Royaume-Uni.
Des pôles d'excellence, en gros, c'est ça?
Ensuite, évidemment, la grande bataille, les talents. Il y a des programmes pour créer des chaires de recherche. L'Allemagne, par exemple, a atteint son objectif de 100 chaires. Et surtout, tout le monde essaye désespérément d'attirer et de garder les experts, ce qui ne doit pas être facile avec la concurrence du privé.
Ah bah non, surtout les géants américains qui aspirent énormément de monde. C'est une lutte féroce.
J'imagine. Et après les cerveaux, il faut les machines, non? La puissance de calcul?
Exactement. C'est le troisième axe commun. Les États investissent dans des supercalculateurs publics. On a Janzé en France, Lumi en Finlande, cofinancé par l'Europe d'ailleurs, Leonardo en Italie.
D'accord. Mais tout le monde voit bien que pour les très grosses puissances de calcul de demain, l'échelle exascale, comme on dit, il faudra mutualiser au niveau européen. C'est le but de l'initiative Euro-HPC.
Logique.
Et puis, on voit aussi partout des efforts pour accélérer le passage du labo au marché, soutenir les startups, renforcer les liens entre universités et entreprises. Le Canada, l'Allemagne, la Suisse sont assez actifs là-dessus.
Sociétale, elle apparaît dans toutes les stratégies nationales maintenant. C'est devenu incontournable. Mais toutes ces stratégies nationales, elles se déploient dans un contexte mondial, très tendu, non?
Ah oui, clairement. Le facteur numéro un, c'est la rivalité États-Unis-Chine.
Ça structure tout le reste.
Ça influence les politiques directement.
Ben oui, regardez les restrictions américaines sur l'exportation des puces les plus avancées vers la Chine. C'est une conséquence directe de cette tension.
D'accord.
Et à ça, il faut ajouter les inquiétudes, bien réelles, liées aux IA génératives. La manipulation de l'info, les deepfakes.
On pense aux élections, par exemple.
Exactement. Mais aussi la cybersécurité, qui est à la fois menacée et potentiellement aidée par l'IA, ou même les biotechnologies. Il y a de vrais enjeux là.
Et cette tension géopolitique, elle se double d'une concentration économique assez massive, si j'ai bien compris.
Oui, c'est l'autre aspect crucial du paysage. Le marché est archi-dominé par quelques acteurs. Les géants américains, les GAFAM, et les géants chinois, les BATEX.
Ils raflent tout.
Ils aspirent une part énorme de l'investissement privé mondial en IA. Les États-Unis, par exemple, c'était autour de 55% de cet investissement en 2020. Et logiquement, ils attirent une grosse partie des talents mondiaux.
C'est un cercle vertueux pour eux, mais un défi pour les autres.
Absolument. Ça pose une vraie question d'équilibre.
Alors, face à ces mastodontes, cette bipolarisation USA-Chine, quelle place pour l'Europe? Qu'est-ce qu'elle fait?
L'Union européenne, elle essaye de jouer sa carte, surtout par la régulation, en fait. Elle cherche à poser un cadre, on pense bien sûr à l'AI Act, la loi sur l'IA.
Oui, très médiatisée.
Voilà. Mais aussi le Digital Services Act, le DSA, et le Digital Markets Act, le DMA, qui vise plus largement les grandes plateformes numériques.
Une approche par les règles, donc.
Oui, et il y a aussi une volonté de construire une souveraineté européenne sur les données, avec le Data Governance Act, le projet d'infrastructure cloud Gaia-X, même si ça avance doucement.
D'accord. Et le financement
Et bien sûr, l'UE finance la recherche via des programmes comme Horizon Europe, et elle soutient le calcul haute performance avec EuroHPC, comme on disait.
Donc, pour résumer un peu tout ça, on est vraiment dans une course mondiale très intense pour l'IA. Elle est largement rythmée par la compétition États-Unis-Chine. Les stratégies des pays, elles convergent sur des piliers assez clairs, les talents, le calcul, la R&D, le transfert techno. Et on voit monter, surtout en Europe, une volonté forte de réguler face à des risques sociétaux liés aux IA génératives qui sont de plus en plus concrets, quoi. C'est un paysage complexe et en pleine ébullition. Et ça nous laisse avec une question de fond, peut-être, pour conclure. Face à cette concentration énorme des ressources, argent, technologie, cerveau, entre quelques très grandes entreprises et deux superpuissances, comment on fait pour que le développement de l'IA soit pas juste innovant, mais aussi éthique, équitable et qu'il bénéficie vraiment à tout le monde?
C'est la grande question, oui.
Comment éviter de laisser une partie du monde sur le côté? C'est sans doute un des défis majeurs pour les années à venir.